Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce 31e épisode de Popol. Et pour ce 31e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Dolé. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Juste avant la manif contre l'extrême droite, donc très bien. Très contente d'aller
super manifester. Super motivée, carrément. On est d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Clémence?
Moi, du coup, je suis Clémence Dolé, j'ai 23 ans, je suis du coup une jeune militante, surtout j'ai été beaucoup syndicaliste étudiante pendant du coup quasiment 7 ans, du coup à l'UNEF, et maintenant je milite auprès des écologistes, du coup à Europe Écologie Les Verts, et notamment beaucoup sur la campagne de Sandrine Rousseau, pour du coup porter l'écoféminisme et la radicalité environnementale, et aussi la radicalité dans toutes les questions de société, notamment sur les questions de féminisme. Voilà.
Super, merci beaucoup Clémence, sachant qu'on a reçu récemment Sandrine d'ailleurs. Et pour faire la transition, on avait reçu Sandrine avec Clémentine Autain et Sophia. Bonjour Sophia Chikirou, qui est notre deuxième invitée aujourd'hui, comment vas-tu?
Bonjour Léa, écoute, ça va très bien, moi aussi je me prépare à aller manifester pour la marche des libertés, à retrouver je pense des dizaines de militants, certains camarades, pour défiler contre l'extrême droite et essayer de montrer aussi que dans ce pays, on n'est pas tous complètement la tête pourrie d'idées fascisantes, quoi. Parce que c'est un peu l'ambiance.
Ouais, faut effectivement montrer qu'il y a un contre-pouvoir qui n'est pas fasciste. C'est très important. Sophia, je disais que je faisais référence à Clémentine parce que tu es en campagne avec Clémentine, n'est-ce pas? Raconte-nous un peu ce que tu fais en ce moment.
Tout à fait. Moi, je suis candidate aux élections régionales sur la liste de Clémentine qui s'appelle Pouvoir vivre en Île-de-France et je suis la tête de liste à Paris. Donc, en ce moment, je fais aussi campagne pour les régionales. Et on défend des idées importantes. Hein. Tout d'abord, un choc de solidarité, parce qu'on pense qu'il y a une vraie urgence sociale et qu'il faut y répondre vite et que c'est une des missions de la région d'agir concrètement. Et puis, pour rejoindre un peu ce que dit Clémence, nous, on défend aussi un changement du modèle économique. On est convaincus qu'on ne peut pas continuer avec ce modèle-là et qu'il faut tenir compte non seulement des questions écologiques, mais aussi sociales. Et dans les questions sociales, bien entendu, on met la question féministe pour réorganiser tout le modèle de production, de distribution, de consommation. On en reparlera, mais voilà, c'est un peu tout ça qu'on a en tête quand on milite aujourd'hui.
Super, merci beaucoup Sophia et bonne chance pour la campagne. Et enfin, merci. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Stacy Algrin. Bonjour Stacy.
Hello!
Comment vas-tu?
Super bien, je pense que ça fait plaisir de voir trois meufs badass comme ça pour un super épisode de Popol. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée.
C'est avec plaisir. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît, Stacy?
Ouais, bien sûr. Du coup, je suis toujours étudiante en ce moment à Sciences Po en politique environnementale. Cette année, je fais une césure parce que j'ai lancé un média pendant le premier confinement. Donc, un moment un petit peu particulier qui, je pense, a permis de stimuler pas mal de personnes. Et donc, c'est un média qui est à destination des 18-35 ans et qui permet de les sensibiliser sur les questions de transition. Donc, pas uniquement la transition écologique, mais également le féminisme, lutte sociale. Et en parallèle, je suis journaliste freelance. Et donc, cet après-midi, j'anime le meeting de fin de campagne de Julien donc pour les régionales. Donc, quelque chose qui nous lie toutes les trois.
Excellent, super. Et ça s'appelle comment ce média, alors, qu'on puisse aller regarder?
Alors, c'est un média qui s'appelle Penser l'après. C'est disponible sur toutes les plateformes, donc Facebook, LinkedIn, etc. Également en podcast. Et j'ai également une newsletter spécialisée sur la biodiversité qui s'appelle La Corneille. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.
Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là pour ce 31e épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes. On va parler de la gifle qui a été donnée à Emmanuel Macron et enfin du rapport sur le féminicide de Shainez Bouta. Donc, sans plus attendre, parlons de cette fameuse gifle dont tout le monde a parlé pendant toute la semaine. Lors d'un déplacement dans la Drôme, accompli dans le cadre de son Tour de France, le président de la République a été giflé par Damien Tarel. Deux jours après les faits, cet homme de 28 ans a été jugé en comparution immédiate et a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il se voit en outre privé de droits civiques pendant 3 ans, interdit d'exercer toute fonction publique à vie, interdit de détenir des armes durant 5 ans et il devra se soumettre à un suivi psychologique. Cet épisode a ému l'ensemble de la classe politique qui a unanimement condamné cet acte, même Xavier Bertrand qui avait pourtant estimé qu'un président devait être à portée de baffe. Beaucoup ont assimilé cette gifle à une gifle donnée à la République et à notre démocratie. L'auteur des faits se dit patriotique et semble proche de l'extrême droite. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cet incident est inquiétant ? Est-ce que pour vous, cette gifle était effectivement une gifle portée à nos institutions ou sommes-nous plutôt face à un acte insignifiant ? Par ailleurs, la célérité avec laquelle a été jugée cette affaire vous surprend-elle ? On va commencer avec toi, Clémence. Qu'est-ce que tu as pensé de cet incident ?
Moi, il y a plusieurs choses. Quand c'est arrivé, j'ai des souvenirs aussi, par exemple, de la farine qui avait été jetée sur François Hollande, moi, à l'époque où il était président. J'ai l'impression que quasiment tous les présidents ont ce moment où ils se retrouvent face à la foule, et surtout en fin de mandat, par ailleurs. À chaque fois, c'est arrivé relativement en fin de mandat, où du coup, la population a un vrai problème avec la personne, la politique que la personne a menée, et donc en fait essaye de s'organiser et de faire des choses là-dessus. Mais du coup, bien sûr, effectivement, il faut condamner. Moi, je condamne la violence et peu importe qui en est victime. Par contre, moi là-dessus, j'ai un vrai débat, c'est que il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur cette question-là, sur la question de la gifle. Ça a été énormément médiatisé, mais au début, en disant parfois que il y avait deux camps qui s'affrontaient en disant non, c'est quelqu'un de gauche, non, c'est quelqu'un de droite, d'extrême droite. Bon, il s'avère que c'est quand même sacrément quelqu'un d'extrême droite pour avoir Mein Kampf chez lui, et puis même le slogan avec lequel il gifle Emmanuel Macron est un slogan d'extrême droite royaliste, donc en fait, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais je pense qu'en ayant voulu le surmédiatiser, ça a effacé beaucoup de choses, notamment, je pense que Sophia me rejoindra là-dessus, mais le fait qu'on a un militant d'extrême droite, youtubeur, qui a fait des menaces de mort, parce qu'en fait, ça reste des menaces de mort, même si c'est sous le ton de l'humour, etc., comme il a voulu le faire passer, où du coup, il fusille quelqu'un, un mannequin qui est censé être un lecteur de Jean-Luc Mélenchon et donc quelqu'un d'extrême gauche. Et donc, moi, je le mets en parallèle énormément parce qu'en fait, la violence de l'extrême droite, elle est réelle et elle progresse dans la société. Et le fait que, du coup, Emmanuel Macron lui dise non, c'était pas. C'est un incident qui est important et qui est révélateur de, par exemple, la violence de l'extrême droite. Par contre, la violence de l'extrême droite, elle est beaucoup plus globale et c'est tombé sur Emmanuel Macron parce que, par contre, malheureusement, c'est quand même beaucoup souvent aussi la gauche qui l'apprend. Et je l'ai raconté, par exemple, dans un petit thread, moi, sur Twitter, quand j'étais engagée à l'UNEF, moi, j'ai l'extrême droite qui a essayé de défoncer ma porte d'appartement à 2h du matin. Donc, voilà quoi. C'est une violence qu'on connaît au quotidien et il faut que ça touche le président de la République pour que ça émeuve les gens.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on se rappelle d'épisodes aussi récents à Lyon, en Occitanie, des choses effectivement très violentes. Faut le rappeler, c'est très important. Stacy, toi, t'as vu les choses, t'as perçu les choses comment ?
Alors, je pense un petit peu de la même manière que Clémence. J'ai pu entendre certaines personnes trouver l'événement marrant ou insignifiant, en effet. Et c'est hyper choquant parce qu'une gifle, ça reste violent. Et peu importe qu'on soit président, qu'on soit une citoyenne ou autre, ça reste quand même hyper choquant comme geste. Et ce qui est aussi important aussi de mentionner, c'est qu'on le voit dans l'espace public, dans l'espace politique, il y a une montée de la violence ces derniers temps qui est assez impressionnante, notamment des maires aussi, des maires de petites communes. Ça apparaît beaucoup moins dans les médias, mais qui sont eux aussi victimes d'agressions, que ce soit verbales ou physiques, parce que forcément, leurs décisions, leurs politiques, ne plaisent pas à l'ensemble des citoyens. Et d'ailleurs, ça a été une des phrases qui a été mentionnée par la personne qui a commis cet acte, qui voulait montrer à Emmanuel Macron que finalement, il n'avait pas été élu par l'ensemble de la population. Alors, finalement, en fait, il n'y a aucun président ou présidente qui ne sera jamais élu par l'ensemble de la population avec le mode de scrutin qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi un des problèmes qu'on peut avoir dans notre société, c'est qu'on est tellement basé sur un vote un peu plus de désaccord pour montrer qu'on n'est pas d'accord envers la politique que propose un candidat, que plutôt en vote d'accord et de ralliement, que ça crée des tensions qui sont vraiment extrêmes dans notre société. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui nous invite à réinventer notre démocratie à l'approche des présidentielles. Donc c'est un temps qui est hyper important. On a les régionales là, qui sont en train de se dérouler en ce moment, mais les présidentielles aussi, ça va être un moment assez, assez charnière. Et puis pareil, ça nous questionne un petit peu sur les campagnes qui vont avoir lieu. Parce que bah, on peut se dire, si un président qui sort dans la rue pour saluer la foule se prend une gifle, bah, les candidats qui vont devoir aller se coller à la foule, qui vont devoir aller défendre des programmes qui ne plairont pas à tout le monde, de la même façon que le programme de Emmanuel Macron ne plaît pas à tout le monde, bah, peut-être une peur de la violence qui va les pousser un petit peu dans leur retranchement sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, est-ce que c'est la meilleure manière de se confronter à l'opinion publique et d'essayer de trouver des solutions aux problématiques qu'on peut avoir dans notre société, on se dit que non, parce que ça va créer un petit peu des bulles idéologiques, en quelque sorte, où finalement, si je suis de gauche, je vais avoir un réseau qui va être vachement tourné sur ces programmes-là, et on peut se retrouver avec des grosses surprises au moment des élections, et peut-être avec un duel Macron-Le Pen qu'on ne veut pas du tout.
Oui, c'est ça, c'est certain. Ouais. Et toi, Sophia, comment tu analyses cette affaire ?
Je rejoins ce que disent Clémence et Stécie. J'ajoute quand même qu'il y a deux choses qui me semblent importantes dans cette gifle. La gifle, c'est toute la symbolique de la gifle. Oui, ça restait sur le geste physique. On est d'accord pour le condamner, le dénoncer. Évidemment, personne n'apprécie ça, parce que ceux qui ont déjà reçu une gifle dans leur vie savent que dans la gifle, ce n'est pas le coup qui fait mal, c'est le côté humiliant de la gifle qui fait mal, le plus mal. D'accord ? On sait ça de la gifle. Je ne sais pas si Emmanuel Macron avait déjà reçu une gifle dans sa vie avant, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a senti à ce moment-là à quel point la violence, quand elle est physique et verbale en réalité, ce n'est pas juste que ça fait mal sur le moment, c'est toute l'humiliation qu'il y a derrière. Là, d'être à portée de gifle, de ne pas pouvoir répondre aussi, parce qu'il n'a pas rendu le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a toute cette symbolique de la gifle. Pour ceux qui en ont reçu, beaucoup de femmes, par exemple, en ont reçu déjà d'un compagnon dans la rue parce qu'elles refusent de donner un numéro de téléphone. Et on dit, oh, mais tu n'as pris qu'une gifle. Oui, mais regarde ce que c'est une gifle. Donc, je ne sais pas si lui, il a pris conscience de ça à ce moment-là. Mais c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce qu'il a déjà pris une gifle dans sa vie et est-ce qu'il sait à quel point la gifle fait plus mal qu'elle ne fait mal physiquement ? Je trouve que non. Sa réaction n'est pas celle de quelqu'un qui a pris conscience de la violence d'une gifle. Je trouve qu'il sous-estime la violence de la gifle qu'il a reçue, parce qu'il n'a pas réagi comme il fallait par rapport à l'extrême droite. Il n'a pas dénoncé comme il fallait ce geste de ce qui semble être un sympathisant ou militant d'extrême droite qui a pour lecture un livre nazi, quoi. Donc c'est un problème, je trouve que sa réaction n'est pas à la hauteur de la violence. Et en même temps, cette gifle, elle nous a renvoyé tous, quoi qu'on dise. Vraiment, moi, ça a été une de mes premières pensées aux gilets jaunes et à la violence qu'ils ont subie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à eux. De me dire, ces hommes et ces femmes traînés par terre, tirés par les cheveux, qui recevaient une balle de caoutchouc qui les, dans la figure, dans l'œil, 35 éborgnés, 5 mutilés. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une vraie prise de conscience de ce que la violence physique, d'où qu'elle vienne, contre qui elle s'adresse, n'est pas admissible et plus forte que tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas tant le physique qui fait mal que tout ce que ça symbolise. Je trouvais qu'il a été en deçà dans sa réaction. Et même ses alliés, ses soutiens ont été en deçà. Ensuite, cette gifle, elle est arrivée dans un contexte. Le jour, la veille, je crois, une vidéo d'un Papacito, là, le youtubeur, poignardait un mannequin. Ce n'est qu'un mannequin, mais pourtant, vous êtes tous restés glacés devant ces images. Nous, on est restés glacés devant ces images. Moi, j'ai peur. Très honnêtement, ça a eu un impact en tant que militante insoumise, identifiée. On sait où je travaille, on sait où je vis, on sait. Voilà, les militants d'extrême droite savent tout ça me concernant. Je ne suis pas la seule, on est plusieurs à la France insoumise, on a pris des précautions. On n'a aucune protection policière. On ne nous a rien proposé. Personne ne considère que ces menaces-là sont à prendre au sérieux. Pourtant, il y a déjà eu une tentative d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon, orchestrée par une dizaine de personnes qui vont passer en jugement au mois de septembre. Il a été déjoué, mais bon, il y a les coups qui sont déjoués, puis il y a les fameux coups qui arrivent avec les coups de couteau dans les reins, que personne ne voit venir. Je vous rappelle que la violence en politique, ce n'est pas nouveau quand même. Bertrand Delanoë, qui était le maire de Paris, avait été poignardé dans les escaliers de l'hôtel de ville. Donc, la violence en politique, Clémence l'a rappelé, elle est présente, et d'ailleurs historiquement présente. Jean Jaurès a été tué par un militant d'extrême droite qui voulait la guerre aussi. Voilà. Il y a tout un travail sur la violence politique et une vraie réflexion là-dessus et savoir comment elle est tolérée quand elle vient de l'extrême droite. Il y a une vraie tolérance pour la violence de l'extrême droite. Alors que quand la violence vient de l'extrême gauche, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé dans l'histoire aussi, la sanction est terrible. Très récemment encore, un militant italien, vous avez vu ça, qui avait été, suite à des accords signés par François Mitterrand dans les années 80, avait mis fin à des poursuites, lui avait accordé l'asile ici en France. Ce militant, c'était dans un accord plus global, d'accord, c'est un accord d'État, pas très important, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce militant d'extrême gauche avait été mis à l'abri et éloigné de l'Italie, on va dire ça comme ça. Il a été renvoyé en Italie pour être jugé 30 ans ou 40 ans après. Vous voyez, la violence d'extrême gauche ne trouvera jamais d'excuses. La violence d'extrême droite est assez admise, finalement. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est ce que je constate. On l'admet. Elle est tolérée.
Tu t'attendais à une réaction plus ferme et de la part du chef de l'État sur cette question, n'est-ce pas?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça aurait mérité, lui qui prend la parole pour un oui ou pour un non de façon officielle, ça aurait mérité une vraie réaction de sa part sur l'extrême droite, sur la mise en garde, sur le fait de dire on doit donner un coup d'arrêt à cette montée-là, à cette tolérance dont je parle, qui vis-à-vis de la violence d'extrême droite. Ouais. Bien sûr.
Stacy, tu voulais ajouter quelque chose? Tu voulais réagir?
Ouais, bien sûr. Bah, sur la question de la réaction d'Emmanuel Macron suite à cette gifle, je trouve que c'est assez compliqué en fait de se positionner parce que quand on est victime d'une agression, quelle qu'elle soit, c'est toujours, on a toujours une réaction qui peut être un petit peu en désaccord avec la réaction qu'on attendrait, enfin qu'on pourrait attendre de la personne, etc. Donc, en tant qu'homme, je comprends qu'on puisse, femme, qu'on puisse essayer de minimiser, en tout cas dans la sphère publique, l'importance d'un tel acte, parce qu'en effet, on est tellement heurté dans son amour-propre, dans la vision qu'on peut renvoyer aux autres, qu'on essaye de se mettre un petit peu au-dessus de tout ça, de jouer à l'homme fort aussi, hein, parce qu'on est un président et qu'on doit garder la tête haute à tout prix. Donc je peux comprendre un petit peu cette position, mais en effet, sur ce qu'il peut y avoir en termes d'idéologie, est-ce que ça renvoie, en tout cas comme geste. Peut-être qu'il aurait pu être plus ferme, mais après, d'un point de vue personnel, j'ai compris sa réaction. Mais oui, sur l'extrême droite, c'est vrai qu'en général, les réactions sont toujours un peu plus apaisées, un petit peu en arrière. Finalement, on essaye de pas trop se positionner, parce qu'on le voit avec tous les discours qu'on peut avoir aujourd'hui dans les médias, c'est un électorat qui fait un petit peu de l'œil à Emmanuel Macron. Donc peut-être qu'il y a une tentative de ne pas trop les heurter, parce qu'on se dit que ça peut servir à un moment important.
Sincèrement, je partage je partage ton opinion là-dessus, effectivement. Je pense aussi qu'il y avait un côté, on ne va peut-être pas trop les froisser non plus, parce qu'on ne sait jamais, ça peut quand même rapporter quelques points électoraux. C'est très cynique, hein, mais bon, c'est aussi ça la politique. Exactement, merci Stacy. Clémence, tu voulais toi aussi rajouter quelque chose?
Oui, sur la question de la violence de l'extrême droite et de comment tout ça a été géré, effectivement, je rejoins aussi le fait que je pense qu'il y a une volonté aussi de ne pas condamner pour éviter de froisser l'électorat d'extrême droite. Et ça, c'est ce qui, pour moi, est un vrai problème par ailleurs, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a une bataille qui a été perdue aussi idéologique sur toutes les mesures d'extrême droite. Et surtout sur la violence de l'extrême droite, moi j'ai aussi, ça m'a fait aussi beaucoup écho à, parce qu'il y a, quelques semaines, c'était le procès en appel du coup des meurtriers de Clément Méric, il y a quelques, oui, il y a une semaine ou deux. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup écho parce qu'à l'époque, du coup, bon, moi, j'étais très jeune, mais du coup, il y avait des camarades, par exemple, de l'UNEF qui étaient camarades avec Clément Méré qui du coup... ça nous avait particulièrement heurté, et surtout la violence de l'extrême droite, vraiment, et c'est là-dessus je rejoins aussi Sophia sur le fait qu'on n'est jamais protégé, il n'y a aucun moment une protection policière par exemple qui est proposée, enfin moi du coup je viens de l'UNEF, où on a eu deux militantes, notamment la présidente et la vice-présidente à l'heure actuelle du coup du syndicat, donc Madame Pouchetou pour la vice-présidente et Mélanie Huss la présidente, enfin moi j'ai été responsable de la communication de l'UNEF à plusieurs moments où du coup il y avait eu de, enfin, ça a été très, très violent. Et enfin, je me suis retrouvée à faire des screens de menaces de brûler nos locaux, de menaces de viol, de choses horribles. Et en fait, à aucun moment, l'UNEF a porté plainte à chaque fois, mais à aucun moment, une protection a été proposée à ces deux militantes-là, alors que pour le coup, du coup, nous, on s'est organisé pour essayer de faire une protection de ces militantes quand elles sortent dans la rue pendant toute une période. Mais on est obligé de s'organiser, nous, en interne, parce qu'en fait, on sait que les pouvoirs publics ne nous protégeront pas. Et je trouve que c'est éminemment dangereux et surtout très violent. Et je pense que là, en tout cas, de la part de ce gouvernement-là aussi, il y a une volonté de pas non plus... pareil, du coup, tout ce qui s'est passé avec l'UNEF, toutes les différentes polémiques qu'il y a eu, etc., on n'a pas vu un exécutif qui a condamné toutes les menaces de mort et de viol que pouvait recevoir du coup Mélanie ou même Mariam, quoi. Parce que, bah non, en fait, Mariam, c'est une femme voilée, donc elle l'a bien cherchée. Et puis, l'UNEF, bon, bah, ils l'ont bien cherchée. C'est dangereux, gauchiste, tout ce qu'on... indigéniste, etc. Ils l'ont quand même bien cherchée. Et donc, on va pas se remettre à niveau, en fait, le niveau de violence qu'il peut y avoir. Et donc, je pense qu'il y a besoin de recul, et que malheureusement, il n'y en a pas. Et que quand on prend un peu de recul sur le niveau de violence qu'on peut se recevoir quand on est militant de gauche, en fait... n'importe qui prend un peu de recul condamnerait en fait tout ce qu'on peut vivre, mais comme on est des personnes de gauche, bah, c'est excusé. Et surtout, pourquoi pour moi aussi l'extrême droite s'est excusé toute la violence, c'est parce qu'on part du principe que c'est des méchants d'extrême droite et donc forcément ils sont violents. Et du coup à gauche, bah, comme on est des tolérants, des gentils et qu'on est le camp, enfin les gens nous définissent comme étant le camp du bien et du coup des valeurs de tolérance, de bienveillance, etc. Du coup, on n'a pas le droit à la violence aussi. Parce que bah, du coup, si t'es violent, t'es pas tolérant, t'es pas bienveillant. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on excuse beaucoup moins dans la violence d'extrême gauche et qu'on est beaucoup plus violent là-dessus et beaucoup plus virulent là-dessus. Ouais.
Sophia, je te laisse réagir et peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Ouais, je voulais ajouter une chose. Vous savez... On dit souvent que nous, on refuse la violence. Et vraiment, pas parce qu'on est le camp des gentils, Clémence, en réalité. Je vais te dire, il y a une vraie raison de refuser la violence. Moi, j'ai une expérience un peu dans les pays d'Amérique du Sud. J'ai voyagé, puis j'ai beaucoup de liens avec les militants là-bas qui sont plutôt de notre bord politique, notamment en Colombie. En Colombie, ils sont victimes d'une violence qui n'est même pas concevable ici, et puis étonnamment, évidemment, comme le gouvernement est proche des États-Unis d'Amérique, et que de toute façon, ce sont des libéraux, personne n'en parle de la violence qui est entretenue là-bas, en ce moment même, à l'heure où je parle, hein, pas une violence passée, hein, bien sûr, elle a existé dans le passé, guerre civile quasiment, on peut parler là-bas, mais de la violence actuelle. Ce que je veux dire, c'est que nous, on refuse la violence parce qu'on en est victime. On est les premières victimes des violences en politique. Moi, j'ai beaucoup milité, par exemple, avec les laïcs algériens, au moment où ils affrontaient les islamistes. Dans les années 90 et début 2000, tout le camp laïque a été décimé par des fondamentalistes, des islamistes, des terroristes, vous appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ils ont été décimés. J'étais proche, enfin, je connaissais en tout cas, plusieurs membres de la rédaction de Charlie Hebdo. C'était notre bord, c'était nos amis, on se considérait comme des camarades. Ils ont été tués. En Tunisie, pareil, pour les militants pour la démocratie de gauche, ils ont été tués. Nous sommes les premières victimes de la violence en politique. Il ne faut pas vous laisser tromper là-dessus. C'est pour ça qu'on refuse la violence, parce que l'accepter, sombrer dans la violence, c'est finalement, à la fin, perdre. Pour nous, c'est la défaite assurée. En Colombie, chaque semaine, vous pourriez le vérifier, chaque semaine, il y a une dizaine de militants de Colombia Humana ou de syndicalistes ou d'écologistes qui sont assassinés. On me disait là-bas, et c'était une élue hein, de Colombe-Pomana qui me disait, ils tuent les jeunes entre 20 et 40 ans. La nouvelle génération. C'est celle-là qu'ils tuent en priorité. Donc ce sont des militants locaux avec, qui entretiennent la vie politique localement qui sont les premières cibles. Donc je vais vous dire une chose. Là, la tolérance qu'il y a vis-à-vis de la violence d'extrême droite amènera inéluctablement à des horreurs qui nous cibleront. Ça arrivera. Donc nous, quand on hurle fort, quand on crie fort, quand on alerte fort, ce n'est pas parce qu'on veut se victimiser, c'est parce qu'on veut alerter. On veut empêcher cela, on veut empêcher ce basculement dans l'indifférence générale. Il n'y a pas de victimisation chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme qui a fait une vie politique complète, il a tout fait. Quand il fallait soutenir les Chiliens face à la dictature, il les a soutenus, pas que par des paroles. Si, voilà. Argentine, pareil. Quand il a fallu y aller, il y est allé. Il n'a pas peur. Ce n'est pas une question de « je veux me victimiser, je veux que vous pleuriez sur moi ». Ce n'est pas ça son sujet. Notre sujet à tous, là, quand on vous dit « il y a un danger », c'est de protéger les Clémence, les Stécie, les Léa, les ceux qui n'auront pas la même portée de voix qu'un Jean-Luc Mélenchon. Donc l'alerte, elle est maximale. Je vous le dis aujourd'hui, et vous le verrez dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'alerte est maximale sur cette question-là. Et tu avais bien raison de rappeler Clément Méric, il y avait un vrai traumatisme pour moi et j'étais encore émue quand je t'ai entendue parce que pendant plusieurs mois, moi, j'ai pleuré sur ce jeune garçon, sur sa famille, bien sûr.
Merci, Sophia. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions sur ce thème. On va passer à un autre thème qui parle encore de violence, malheureusement, et qui parle aussi de prévention et de comment faire en sorte que les choses s'améliorent. On va parler du rapport qui a été rendu sur le féminicide de Shaïnèse Bouta. Les conclusions de la mission d'inspection sur le féminicide de Shaïnèse Bouta, le 4 mai à Mérignac, ont été remises au gouvernement ce mercredi, assorties d'une série de préconisations pour améliorer la prise en charge des victimes et l'évaluation de la dangerosité des auteurs. Il ressort de ce rapport qu'une série de manquements pourraient vraisemblablement être à l'origine du décès de la jeune femme, mère de trois enfants. Sont notamment pointés du doigt des défauts de communication entre la police et la justice, une mauvaise évaluation de la dangerosité de l'auteur et un défaut de protection de la victime. Dans un communiqué, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une série de mesures pour mieux lutter contre les violences conjugales, parmi lesquelles l'augmentation du nombre de téléphones grave danger et le renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement. Un fichier national des auteurs de violences conjugales sera aussi mis en place pour disposer d'une vision exhaustive de ces situations, mais aussi d'un outil partagé actualisé en fonction des actions policières menées, avec déclenchement de mesures d'accompagnement, de prévention ou de protection, soit par la justice, soit par la police. Le contrôle et la détention des armes à feu seront également renforcés. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ces mesures annoncées par le gouvernement vous semblent suffisantes pour lutter contre la multiplication des féminicides ? Et comment peut-on expliquer autant de manquements ? On va commencer avec toi, Stacy. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réaction du gouvernement face aux conclusions de ce rapport, s'il te plaît ?
Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler que les féminicides, aujourd'hui, c'est un très gros problème, surtout en tant que femme. On peut être toutes soumises un jour à ce genre de violence. Et quand on voit que quand on va dans un commissariat ou autre, on a parfois du mal à être entendu. C'est hyper inquiétant. Et là, ces petites mesurettes qui sont proposées, notamment sur le téléphone grave danger, c'est pas de là que venait le problème dans ce cas. C'est que concrètement, même quand l'agresseur est sorti de prison, elle n'était même pas au courant en fait, qu'il était sorti. On ne l'a même pas averti. Alors que je pense que quand on a été victime de violences conjugales, s'il y a bien une chose dont on veut avoir, sur lesquelles on veut avoir des informations, c'est à quel moment est-ce qu'il va ressortir et à quel moment est-ce que je vais être à nouveau en danger. Parce que c'est ça aussi dont il est question, c'est qu'à partir du moment où cet homme ressort de prison, il est à nouveau capable d'agresser sa compagne. Et surtout que lorsqu'il était en prison, il a poursuivi en fait, ses menaces. Même à ce niveau-là, il n'y a pas eu de suivi alors qu'il était quand même dans une instance carcérale, toujours dans les mains de la justice. Donc c'est super de vouloir mettre des choses en place une fois que ces hommes sont sortis, mais si même au moment où ils sont entre les mains de la justice, c'est un moment quand même un peu charnière dans ce type de cas, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut essayer comment dire, de permettre la réinsertion de ces individus, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi de ça dont il est question. Ce n'est pas uniquement de les punir, de les enfermer, de dire, bon, bah, vous allez aller au coin et puis quand vous ressortirez, vous serez sage. Non, c'est une question de dire, ces individus ont des problèmes, que ce soit d'ordre psychologique ou autre, je suis pas médecin là-dessus. Il faut les accompagner. Donc moi, j'aimerais bien en fait savoir quelles mesures est-ce qu'ils vont proposer pour faire de la réinsertion aussi de ces hommes et qu'on aille vraiment traiter le problème à sa source, qui est aujourd'hui bah, le patriarcat, les systèmes d'oppression qui sont en place. Et un téléphone, c'est super, mais quand on a un homme avec un fusil en face de soi, je suis désolée, mais je n'ai pas envie de faire le coup de téléphone à un ami. On n'en est pas à ça. Donc je suis un peu déçue, vraiment très déçue. Mais est-ce que c'est surprenant d'un gouvernement qui n'a même plus de ministère à l'égalité, mais juste un secrétariat général, un secrétariat d'État. Enfin, plus rien ne m'étonne, en fait.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas très ambitieux comme annonce. Clémence, toi, comment tu as réceptionné ces annonces?
Moi, là-dessus, je suis toujours un peu... Enfin, bien sûr, c'est très en deçà, en fait, de ce qu'il faudrait faire. Et surtout, moi, j'ai le souvenir d'une grande manifestation le 25 novembre, il y a 2 ans, il me semble, avec nous toutes, qui avait été massive. Il y avait énormément de monde. C'est la première manif féministe où je vois autant de personnes dans la rue. Et du coup, le slogan, c'était 1 milliard. On demande 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter, en fait, sur les questions de féminisme. Et bah, il est où ce milliard? On ne l'a toujours pas. Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème. Et surtout, moi, je suis d'accord, je rejoins beaucoup Stécie là-dessus. Moi, mon problème, c'est qu'en fait, on s'intéresse du coup aux violences sexistes et sexuelles, et surtout aux violences du coup dans un couple, les violences conjugales, seulement au moment où en fait, la femme, elle est morte. Et on ne s'intéresse pas avant, en fait. C'est au moment où la femme est morte ou alors quand elle a tué son bourreau et que du coup ça en fait des cas comme Jacqueline Sauvage ou même là du coup même Valérie Bacot qui passe bientôt au tribunal pour avoir tué du coup moi elle c'est encore plus sordide hein, pour le coup que juste des violences conjugales entre guillemets mais du coup moi mon problème il est là c'est qu'en fait on s'intéresse à cette question là juste au moment où les femmes elles meurent. Mais du coup, c'est comment on fait pour enrayer pour le avant, en fait, avant que les femmes, elles meurent. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des femmes qui meurent, et donc comment on fait pour l'empêcher? Et c'est pour ça que je rejoins énormément Stécie là-dessus, c'est que il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien pour comment on fait pour que, bah, par exemple, tu puisses y avoir quand les hommes sont condamnés. Les hommes sont condamnés quand les femmes, elles meurent. Ils sont très rarement condamnés, en fait, quand il y a des violences. Comment on fait pour protéger, en fait, les femmes qui sont victimes de violences? Moi, dans la campagne de Sandrine Rousseau, il y a un certain nombre de femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui du coup racontent l'enfer qu'elles vivent en fait au quotidien, de l'épée de Damoclès qu'elles ont au-dessus de la tête, de je sais qu'un jour il peut venir et me buter quoi. Et elles le disent comme ça, elles se retrouvaient être obligées par exemple de changer de région avec leurs enfants, de partir au bout de la France pour essayer de disparaître pour pas qu'ils les retrouvent. Enfin, c'est tout autant violent même que du coup les violences qu'elles ont subies et qu'elles n'ont aucun, elles passent leur temps à alerter en fait la police, c'est des militantes féministes donc elles alertent, elles font tout pour essayer d'alerter mais en fait elles alertent en disant en fait un jour il va me tuer, du coup qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il me tue? Et moi c'est là-dessus que ça me met très très en colère que du coup c'est très très en deçà et surtout là moi ce qui m'a en colère aussi c'est effectivement le monsieur était quand même en prison. Personne n'a dit à la justice qu'il y avait des plaintes pour lui, de sa femme, du coup, contre lui pour violence conjugale. Enfin, il y a effectivement, du coup, un manquement dans la transmission de ces informations-là. Et enfin, c'est un manquement très grave, ça a mené au meurtre d'une femme. Et enfin, moi, ça c'est quelque chose qui me révolte énormément, ces questions-là. Et que je trouve assez effarant que ce ne soit, qu'il n'y ait pas plus en tout cas, plus de réflexion sur tout un parcours, en fait, pour prévenir de ça, quoi.
Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis aussi. Sophia, tu partages les opinions de Stacy et de Clémence?
Sur le constat, évidemment, je le partage, mais malheureusement, il n'est pas nouveau. Quand j'ai commencé à militer il y a plus de 20 ans, j'étais dans des associations féministes locales, et notamment de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai passé 3 ans à tenir des permanences, à recevoir des personnes victimes. Et on avait toujours le même problème qu'on a encore aujourd'hui, c'était l'impuissance. impossible. Enfin, voilà, on était confrontés à ce problème-là. Il n'y a pas très longtemps, je visitais le palais de la femme avec Clémentine Autain. On a rencontré une femme victime de violence, d'impuissance, encore une fois. Voilà, on ne peut rien faire. C'est plus des dysfonctionnements, c'est plus des défaillances. Moi, ce rapport, j'ai regardé rapidement, pour être honnête, mais j'ai regardé rapidement ce rapport, c'est une honte, quoi. Pour être des défaillances, quand vous me direz, au moins, c'est écrit noir sur blanc, c'est reconnu. Mais c'est plus des défaillances à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est dans l'inaction coupable des gouvernants.
On est sur des fautes, presque.
Et on est sur des fautes, voilà. Donc, on ne parle pas de dysfonctionnement, quelque chose qui n'a pas marché dans un système qui d'habitude marche. Non, on a un système qui ne marche pas. D'accord ? On a un système qui, globalement, ne marche pas. Et depuis trop longtemps maintenant. Il y a plusieurs choses. Parler des sanctions, c'est une chose. Allez, allons-y sur les sanctions sévères. Et puis, j'avais lu aussi un article qui disait qu'en général, quand un homme tuait une femme, on parlait, vous savez que le fameux crime passionnel a existé pendant des années, là, il y avait des circonstances atténuantes. Quand une femme tue son époux pour des violences, les condamnations sont plus longues pour les femmes que pour les hommes. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes face au système le plus injuste, inégal qui soit. Ça devrait non seulement révolter toutes les femmes, mais révolter les gens qui sont autour des femmes et qui ne sont pas les gens qui acceptent ces inégalités-là, des hommes. Et pourtant, ça continue comme ça. Ce gouvernement se moque de nous depuis le début, tu as parfaitement raison, Stacy. Marlène Schiappa, elle fait plus de tort à la cause qu'elle nous a fait de bien. Elle a fait du tort à la cause. Elle nous a vraiment réduite à l'impuissance totale. Et comme aujourd'hui, le mensonge sert de communication politique, ils utilisent le mensonge. Et donc, les annonces qui sont faites là sont des annonces mensongères. Moi, je vous le dis très franchement, ce sont des annonces mensongères. Ils ne font rien de plus que ce qu'ils n'ont pas fait auparavant depuis 4 ans. Un amendement a été proposé par l'opposition cette semaine à l'Assemblée nationale. Il proposait de mettre 50 millions d'euros pour financer les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Le groupe majoritaire LREM l'a rejeté. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Donc, Stécie, tu as raison, il n'y a rien à attendre. Nous, on est vraiment en colère, c'est vrai, mais aussi déterminés à ne pas la laisser faire. Il y a 2 causes mondiales qui traversent absolument toutes les sociétés, tous les pays, du Bangladesh, en Afrique, partout, même les pays très pauvres. C'est l'écologie et le féminisme, la cause des femmes et la cause de l'environnement. Ils font ce qu'ils veulent, ils se comportent comme ils veulent, ils peuvent rester inactifs encore, nous agirons, les peuples vont agir. Donc, moi, je suis convaincue que maintenant, il faut que là, dans les prochaines échéances, on agisse au niveau régional. La droite régionale se moque pas mal de cette cause. Valérie Pécresse, elle fait 483 millions d'euros d'économie sur l'année 2020. Elle se dit pas, tiens, je pourrais en mettre 50 millions sur la cause des femmes. T'es pas là pour faire des économies, Valérie. L'argent public est là pour être dépensé. Et notamment, un des volets qui manque, on parlait de répression, évidemment, si tu parlais de la répression, et Stécie aussi, mais le volet qui manque, le plus important, celui qui depuis 20 ans a été totalement abandonné depuis l'arrivée de Sarkozy, finalement, au pouvoir, c'est-à-dire comme ministre de l'Intérieur au début, puis comme président, c'est le volet de la prévention et de la médiation. Vous ne faites pas de politique de sécurité sans ce volet-là. Or, ça fait 20 ans que ce volet-là est presque honteux. Les policiers considèrent que ce n'est pas leur job. Ils ont tort. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Dans les formations, on leur dit que ce n'est pas leur job. Sarkozy leur a dit que ce n'était pas leur job. Ils sont convaincus désormais que ce n'est pas leur job. Et chez eux, même, la violence est quotidienne. Donc, ils peinent dans la violence. Pour un policier, une femme qui vient se plaindre d'une gifle, c'est rien. Ça va, arrête de te plaindre. Mais oui, mais parce qu'il n'a pas été formé à ce que symbolise et représente la gifle, le premier pas vers, etc. Ça démarre toujours par une gifle. C'est vraiment d'expérience, vous demandez à toutes les femmes ou les militants, les travailleurs sociaux auprès des femmes victimes de violence, ça démarre toujours par une gifle. Donc, il est temps d'abord de dénoncer ce qui se passe chez la police, il y a un problème de formation des policiers premièrement, mais aussi peut-être un problème plus grave, c'est-à-dire que si face à des fautes professionnelles, il n'y a pas de sanctions, ça continuera. C'est-à-dire si ceux-là même qui sont le premier interlocuteur avant d'arriver à la police, souvent les femmes battues, elles mettent plusieurs mois, plusieurs années avant d'arriver à la police. Ce n'est pas leur premier réflexe. Les femmes victimes de violence, leur premier réflexe, ce n'est pas la police. C'est la famille, c'est les amis, c'est chercher de la médiation parfois autour d'eux, mais ce n'est pas la police. Donc le jour où elle arrive à la police, si la police ne la reçoit pas et ne la traite pas et ne donne pas suite à ce qu'elle vient raconter, c'est foutu. La perte de confiance est là. Et ce qui se passe, c'est que l'homme prend confiance. Il se sent protégé par la police. Vous comprenez pourquoi ce qu'ils appellent une défaillance, c'est en fait un grand et un grave problème systémique, et que si on ne modifie pas la formation des policiers, y compris leur responsabilité dans la non-prise en compte des avertissements, eh bien, ça perdurera. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a tellement à dire là-dessus que je veux que nous, on est militantes, là, toutes les trois, donc qu'on soit bien consciente de ça sur ces questions-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas la peine de trembler. Oui, si tu pointes la police, les syndicats factieux vont te tomber dessus, mais si tu te tais, tu es complice d'une certaine façon. Donc, il faut le dire, défaillance, non pas défaillance, mais problème chez les policiers, responsabilité de la police. Or là, les mesures proposées par le gouvernement, c'est tout sauf la responsabilité de la police.
Oui, c'est bien vrai, c'est effectivement un point très important, notamment sur les aspects de formation, et comme tu le rappelais, toutes les associations féministes le rappellent très très régulièrement aussi. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces deux thèmes. C'était très intéressant d'avoir vos opinions, de partager avec vous. Merci. On va passer à vos actualités maintenant, si vous le voulez bien, et on va commencer avec toi Clémence. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Moi, du coup, je voulais parler de la question de Parcoursup et surtout, du coup, de l'acceptation à l'université, de l'entrée à l'université. Et c'est mon côté un peu, même si j'ai quitté l'UNEF il y a peu de temps, ça reste quand même un sujet qui est important. Surtout là, moi, je vois, en ce moment, ça fait un peu l'actualité des les recalés en fait, de Parcoursup, des choses qui sont, du coup, parfois très énormément injustes, où on fait, du coup, on parle beaucoup des brillants élèves qui, du coup, n'ont pas de place à l'université, qui n'ont pas de place en enseignement supérieur. Et donc, là-dessus, il y a un vrai, problème. Et surtout, il faut se rappeler que Parcoursup, la sélection à l'université, c'est la première grande réforme d'Emmanuel Macron quand il arrive dans son quinquennat. C'est de taper sur l'université et de taper sur, du coup, la question de la sélection à l'université. Et du coup, moi, j'avais d'abord fait la loi travail, mais du coup, ça a été un des grands mouvements que j'ai fait quand j'étais, du coup, à l'UNEF. Et surtout, c'est un truc qui... ça a été un mouvement très compliqué à mener parce qu'en fait, ça a été très long de faire accepter le fait que, oui, c'était de la sélection et que la sélection n'était pas normale à l'université. Et donc ça, c'était un combat idéologique qui a été très dur et très compliqué sur le long terme. C'est un mouvement étudiant qui avait fait que, du coup, on s'est retrouvé à être quasiment la moitié des universités à avoir au moins un site bloqué. Enfin, même pendant le CPE, il n'y avait pas autant de facs qui étaient bloqués, quoi. Et le contrat première embauche, toutes les mobilisations du CPE, il y avait moins de facs de bloqués, pourtant le gouvernement a plié. Et c'est la première fois du coup, qu'on a vu Emmanuel Macron, qu'on a compris ce que ça voulait dire, ce que ça allait être tout ce quinquennat. C'est il y a beau avoir la moitié des facs qui sont bloqués, il y a beau avoir beaucoup de gens qui s'opposent, etc. Mais en fait, on ne flanche pas, on ne plie pas, et en fait, on fera quand même. Et donc, je pense que c'est la première fois qu'il y a eu un déni, du coup, on a vu le déni des rapports sociaux, de tout ce qu'on appelle les dénis des corps intermédiaires, les dénis, en fait, de se plier aussi aux rapports sociaux et de pouvoir aussi de se plier aux rapports de force, parfois, qui peut être mis en place, et que c'était un combat perdu d'avance, presque, du coup, d'essayer de rentrer dans un rapport de force avec ce gouvernement-là et avec la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'était quelque chose qui est très marquant. Et surtout, moi, là, du coup, je suis très inquiète, parce que maintenant, je ne fais plus partie de l'UNEF, mais j'ai une inquiétude très forte sur ça continue, en fait, Parcoursup, d'être la boucherie chaque année, et c'est de pire en pire, quoi. Et ils ont beau essayer de changer des chiffres par-ci, par-là, d'essayer de bouger des deux, trois trucs pour être dans leur rapport, en fait, ça se voit que c'est une boucherie. Et il n'y a rien de proposé. Et ce que demandent beaucoup de militants depuis longtemps et ce que demandent beaucoup d'étudiants, c'est en fait, on veut la construction de nouvelles universités. Parce que quand on parle à un niveau où il y a énormément de personnes qui ont baccalauréat, c'est très bien que du coup, il y ait beaucoup plus de personnes qui ont accès au baccalauréat, qui doivent avoir accès du coup derrière à l'enseignement supérieur, du coup, donner les moyens pour que les universités fonctionnent et donner les moyens pour construire des nouvelles universités, quoi. Donc voilà.
Merci beaucoup Clémence, c'est effectivement un point très important et on n'en parle pas beaucoup, pas assez j'ai l'impression, mais effectivement, ouais, merci. Stacy, de quoi voulais-tu nous parler toi s'il te plaît ?
Alors, moi, ça va découler un petit peu de plein de choses qu'on a mentionnées dans cet épisode. On a bien souligné le besoin de changer de modèle, de choisir une nouvelle façon de faire société, une société qui prenne en compte vraiment les questions écologiques, sociales et solidaires. On a parlé aussi du besoin de changer notre façon de voter, parce qu'on le voit, ça nous emmène à des problèmes de violence, à des problèmes de personnes qui ne se sentent plus représentées par les élus, et la question également de faire de meilleurs choix. Et on a une date qui arrive, on a une échéance qui sont les élections présidentielles. Et pour ça, il y a une initiative superbe qui s'est lancée, c'est la primaire populaire, une primaire qui essaie de changer un petit peu ce qui est fait aujourd'hui par les partis politiques. Donc c'est un programme basé sur un socle de 10 propositions écologiques, sociales et solidaires qui va redonner le pouvoir aux citoyens, puisque ce sont les citoyens qui pourront voter avec ce qu'on appelle le jugement majoritaire pour des personnalités qui ont été proposées, mises en avant, mais également par des personnes proposées par les citoyens et citoyennes eux-mêmes et elles-mêmes. Et le jugement majoritaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, au lieu de dire « moi, je veux que ce candidat ou cette candidate gagne », on va vraiment donner son avis sur l'ensemble des candidats et candidates avec un « est-ce que celui-ci me va ? Oui, à peu près, celui-ci, je suis vraiment contre. » Et donc après, on fait une moyenne sur tous les résultats, sur tous les candidats, et c'est celui ou celle qui a la meilleure moyenne qui sort de cette primaire. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller le soutenir ou la soutenir pour les présidentielles. Et donc ça, je trouve ça vraiment super. Ils sont en train de se mobiliser en ce moment. Hier, il y avait une petite réunion pour tous les bénévoles. Donc, ils ont besoin d'aide parce que si on veut être crédible, il faut avoir un maximum de signatures. Et pour ça, il faut des bénévoles. Il faut aller faire du porte-à-porte. Il faut appeler. Il faut se mobiliser sur les réseaux sociaux. Donc, si vous écoutez ça et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un Macron ou un Le Pen en 2022, je vous invite à les rejoindre.
Merci beaucoup, merci Stacy, c'est super intéressant comme initiative. Et de mémoire, on avait déjà une intervenante sur Popol qui en avait parlé, et je crois que c'était Paloma Moritz qui nous en avait parlé de cette initiative qui est assez fabuleuse et très très inspirante, effectivement. Merci beaucoup. Et enfin, Sophia, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Moi, c'est j'ai décidé ça ce matin, j'ai changé de sujet. C'est Roland Garros hier soir. Et la décision incroyable prise par Macron d'exempter les spectateurs de couvre-feu. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ils l'ont fait. Même ça, ils le font. Et c'est l'ancien régime. C'est l'ancien régime. Les places à Roland-Garros, je ne sais pas à combien de centaines d'euros elles sont, mais je crois qu'elles sont assez chères quand même. Et puis, c'est spécial, ils ont le droit d'occuper tous les rangs, alors que pour le foot, c'était 5 000 spectateurs agglutinés. Incroyable, ce traitement différencié. C'est un traitement de classe, hein, dont tout le monde a compris, c'est pas la peine, c'est pour ça que ça met en rogne les gens. C'est parce que, c'est les privilégiés. Le président intervient directement comme le roi pour les autoriser à rester au-delà du couvre-feu. Tandis que les jeunes qui se sont réunis aux Invalides pour profiter de la Zébon hier soir, donc, profiter du temps agréable, boire un verre, etc., on finit par être chassé par les policiers, limite chargé. Là, tu te dis, ils vont tout nous faire. Ils vont tout nous faire. Et la lutte des classes, elle est là. Et on peut la nier, on peut se fermer les yeux, on peut dire, non, mais nous, on veut une société, il n'y a pas de lutte des classes. Non, mais écoutez, elle est là, vous ne voulez pas la mener. Eux, ils l'amènent, et puis sans vergogne. Et puis, c'est ce monde néo-fasciste, en réalité. Ce monde néo-fasciste où, d'un côté, vous avez l'extrême droite, avec toute sa violence, sa haine, sa liberté de parole, où l'injure est constante. Et de l'autre côté, ce comportement des insouciants, comme les appelait Stefan Zweig, les insouciants qui, eux, profitent de la vie parce qu'ils n'ont aucune des contraintes qui sont... appliquer aux autres. Voilà, c'était ce fait qui, à mon avis, va rester comme le homard de Rugy et comme d'autres choses. Mais vraiment, si en 2022, on n'est pas capable d'un véritable sursaut, on sera parti pour 5 ans de lutte. Mais moi, je milite en politique depuis longtemps, la lutte ne me fait pas peur. C'est pas ça, mais 5 ans de lutte avec toutes les personnes qui vont être victimes. et qu'ils ne pourront pas résister à ce qui va nous arriver. Je suis très optimiste, contrairement à peut-être à Stécie, mais peut-être que j'interprète mal ce que tu as dit, sur 2022. Moi, je crois que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est une candidature populaire. Je connaissais l'esprit du jugement majoritaire. Ça ne marchera pas, malheureusement, parce que ce n'est pas comme ça que se fait la sélection du candidat à l'élection présidentielle dans notre pays. Ce n'est pas sa culture, ce n'est pas sa tradition. Même si les mouvements politiques et les partis politiques sont largement critiquables, ils ont aussi une fonction reconnue par la Constitution et ils font un travail de démonstration. Il n'y aura pas de petit bonhomme sorti du chapeau qui viendra sauver la gauche, Stécie. Ça n'arrivera pas. Il faut maintenant se mettre à l'œuvre et travailler avec ceux qu'on a là. Et moi, je dis avec Jean-Luc Mélenchon, il a besoin de Stécie, de Clémence, de Léa, il a besoin de vous. Et vous avez là un candidat et un programme qui correspond à vos aspirations. Voilà ce que je vous dis et je vous embrasse.
Merci Sophia. Alors Stécie a quand même le droit de réponse après cet appel. Et on conclura cet épisode avec toi Stécie, merci beaucoup.
Ouais, bien sûr. Non, je ne suis pas du tout pessimiste sur 2022. Je crois en la puissance des citoyens et des citoyennes. Et peut-être que Jean-Luc Mélenchon a un super programme, mais s'il est sûr de lui et qu'il est prêt à écouter aussi les citoyens et citoyennes et à entendre les propositions et leurs demandes qui sont aujourd'hui portées par la primaire populaire, bah, il peut lui aussi être soumis à ce processus. Et du coup, s'il en ressort gagnant, il en ressortira également poussé par cette dynamique et ce sera super pour lui parce que aujourd'hui, la gauche, elle n'attend pas un petit bonhomme sorti du chapeau. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes inspirantes, comme Jean-Luc Mélenchon, mais ce qu'on leur demande, c'est de faire un pas vers nous, comme on a pu le faire vers eux et vers elles dans le passé.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 31e épisode de Popol. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.